Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous continuons notre petite balade délicieuse de la semaine dernière avec Cécile Carrier en égrénant tous les motifs, enfin tous, ne soyons quand même pas prétentieux, quelques motifs iconographiques majeurs. On essaie d'en trouver qu'ils se retrouvent au Musée de la Romanité, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc on vous le précisera au fur et à mesure. Mais d'abord, saluons notre invitée. Bonjour Cécile.
Bonjour Martine, bonjour à toutes et à tous.
Alors la dernière fois, nous étions restés à parler de... Alors après Vénus, c'était logique de parler de Mars. Et du coup, la transition, sans que nous l'ayons vraiment préméditée, se trouve toute prête, puisqu'on va parler d'une icône, alors avec un grand I, la Louve.
La Louve romaine, exactement. Alors là, il n'est pas difficile de trouver des objets représentant la Louve romaine. C'est une icône, effectivement, dans le sens strict du terme. C'est vraiment une image que l'on voit partout, sur tout type de support, hein, puisque notre sujet, c'est la diffusion des motifs sur tout support. Et là, vraiment, la Louve romaine, c'est vraiment le motif que l'on voit d'un peu partout dans toutes les formes.
Donc c'est la Mama Louve. Hein.
C'est la mère Louve, là, c'est la Louve qui aurait...
Lupercale.
Voilà, du Lupercale, qui aurait donc nourri Rémus et Romulus, les fondateurs de Rome, et qui devient un emblème sacré, hein, patriotique, on va pouvoir dire, des Romains, hein, de Rome. Hein. Là, on est vraiment sur la fondation mythique de Rome.
Dans le monde entier, quel que soit le niveau de connaissance des gens, autant quand on voit un monsieur qui porte un vieillard sur ses épaules et un bambin à sa main, on sait que c'est aîné.
Oui.
Et quand on voit la Louve, on sait qu'il sera question
d'Europe. Exactement, oui. Même s'il n'y a pas les petits en dessous qui sont en train de téter, dès qu'on voit la Louve à la romaine, hein, donc bien campée sur ses quatre pattes, et généralement la tête tournée vers les enfants, pas toujours, mais en général on reconnaît assez bien cette Louve du Lupercale.
Alors, pour contrarier nos auditeurs qui ne connaissent qu'elle, nous allons écarter la fameuse sculpture étrusque, dont on discute beaucoup, la datation, l'origine exacte.
Celle qui est au Capitole de Rome. Alors, c'est pas parce qu'elle n'est pas jolie, c'est pas le problème, mais c'est que chercheurs ne sont pas du tout d'accord sur la période de fabrication de cette œuvre. Donc on part de la plus haute antiquité jusqu'à l'époque moyenâgeuse. Hein. Donc, et en plus, les gens ne sont pas d'accord sur les résultats sur les analyses et les résultats de ces analyses du matériau. Donc, n'étant pas moi-même spécialiste de cet objet, n'ayant pas vraiment, vraiment regardé de près, hein, je ne suis pas capable d'avoir une position là-dessus.
Gardons un propos irénique, ne déclenchons pas la guerre.
Voilà, c'est ça. De toute façon, je ne pourrais pas la déclencher, vu que je ne connais pas suffisamment de dossiers.
Alors, on va quand même dire que les petits jumeaux, ils ont été rajoutés.
A priori, apparemment, c'est peut-être la seule certitude qu'on aurait, c'est que les jumeaux qui sont en dessous ont été rajoutés, effectivement, à l'époque moderne. Mais ceci dit, sur les autres images qu'on a de cette scène, il y a bien les jumeaux. Hein. On a des monnaies qui les représentent. Nous, à Nîmes, on a une monnaie qui, dans le musée, qui est visible au musée. Et on a évidemment, au niveau des arènes, on voit la plaque, le relief, avec cette image qui est certes effacée, mais qui est quand même encore
visible.
Mais
on la devine très bien.
On la devine très bien. Et on a, pour ceux qui n'arrivent pas à la voir au niveau des arènes, on a un moulage qui est exposé au Musée de la Romanité. Donc les gens peuvent aller voir le moulage au niveau du secteur d'architecture.
Et la monnaie, quant à elle...
Elle est dans le secteur monnaie.
Voilà.
Alors, plutôt du côté iconographique, c'est-à-dire dans la portion où on voit le dispositif multimédia sur l'as de Nîmes. Et sur le côté, il y a des petites vitrines qui sont plutôt thématiques sur l'iconographie, les choses comme ça. Et je crois qu'elle est là, il me semble.
Alors justement, cette pièce, presque une médaille, elle est vraiment très belle. Hein,
oui, alors on voit très bien le motif, hein, de la Louve avec les petits. Alors on présuppose que cette iconographie, ce motif, est issu d'une sculpture qui devait être présente à Rome, effectivement. Alors par les écrits, on suppose qu'il y avait au moins trois sculptures de cette Louve, grâce aux auteurs anciens. Il y en aurait eu une au niveau du Capitole. Au niveau du temple capitolin, là où il y avait, pas très loin de des temples de Mars, etc. Et il y en aurait eu au niveau du figuier.
Ah oui,
sachant que le figuier, a priori, aurait été déplacé du Lupercal vers le Comitium. Donc ça, c'est un peu complexe aussi.
Le figuier
aussi.
Qui avait été foudroyé.
Voilà, c'est ça, voilà, qui est foudroyé après.
Oui.
Et il y aurait eu une autre statue au niveau du Lupercal lui-même, qui est peut-être d'époque augustéenne. Donc là aussi, beaucoup d'hypothèses, mais on sait par les écrits anciens qu'il y avait des statues de cette louve. Par contre, on n'a pas de description très précise pour savoir exactement comment elles étaient faites. Donc on sait qu'il y avait des statues en bronze de la louve en plein cœur de la Rome traditionnelle.
Et surtout au moment où on implante le culte impérial, on revient aux origines,
puisque Auguste se veut un deuxième fondateur de Rome. Donc il se place vraiment dans la continuité de Romulus. Donc on sait que des statues existent. Donc probablement que les images que nous avons sur tous ces objets qui se diffusent à travers tout l'Empire sont issues de ces images. Ça, très probablement. Donc voilà, nous ici à Nîmes, comme dans tout le reste de l'Empire, on a cette image qui existe. À savoir aussi que cette image, en plus d'avoir cet aspect icône patriotique, prend finalement une autre fonction, celle de porte-bonheur, on pourrait presque dire, c'est-à-dire d'une image qui... pas vraiment tutélaire, mais plus qui éloigne la malchance, qui éloigne le mal, le mauvais, donc ce qu'on appelle un objet apotropaïque. Et donc, c'est aussi dans ce sens, notamment, qu'on pense... je vais pas y arriver. on pense que l'image qui est aux arènes a cette fonction-là, apotropaïque, pour éloigner le mauvais sort de ceux qui combattent dans l'arène. On peut la retrouver aussi en bijoux. Moi, j'ai vu passer une fibule d'une collection privée, une fibule en argent, qui, certes, apporte peut-être aussi cette fonction patriotique, mais qui peut aussi avoir une fonction apotropaïque. Et puis, bon, l'objet est quand même, ce motif est quand même un beau motif, on va dire.
Donc, sur ce qu'on trouve à Nîmes, on a à peu près tout dit. Je voudrais simplement mentionner, mais nous ne la verrons pas et vous ne la verrez pas, une louve très particulière, presque futuriste et moderne.
Oui, de cette fibule, oui.
Voilà. Et
donc, elle est en argent, donc comme je le disais, et elle date du 3e siècle. Donc, on voit que ce motif perdure jusqu'à la fin de l'Antiquité. Hein. C'est vraiment quelque chose... ce genre de fibule, on en trouve généralement dans les limesses, c'est-à-dire dans les frontières de l'Empire. C'est souvent lié quand même à la partie militaire de la population quand même.
Oui, ben ça aussi.
Comme les marsoutors.
Voilà, c'est ça. Non. Et puis c'est une origine extrêmement populaire.
Oui.
Et un motif mythique, puisque ce Romulus et ce Rémus, bon, en double certes, mais c'est des enfants sauvés des eaux, arrachés à un destin terrible. Et c'est un mythe qu'on retrouve bien évidemment avec Moïse, par exemple.
Oui, de toute façon, ce sont des thématiques. Comme la résurrection de Dionysos, par exemple, qui sont déjà bien présentes dans l'Antiquité gréco-romaine avant de passer dans la tradition judéo-chrétienne.
Oui, il y a une filiation assez émouvante de tous les mondes. Hein.
À la fin de l'Antiquité, les gens sont à la recherche de quelque chose d'autre. Hein, donc, on sent que par les philosophies qui se sont développées, notamment à Rome et dans l'Empire, à partir des grands philosophes grecs, qui sont justement dans cette mouvance de quelque chose d'après la mort, on le voit par le mythe de Dionysos, et d'ailleurs à la fin de l'Antiquité, les religions à mystère qui promettent une sorte de renaissance après la mort.
Ou la réincarnation.
Une réincarnation, il y a le mythe de Mithra aussi, qui est là-dedans aussi.
Oui. Hein.
Donc on voit que ces religions-là sont très, très prenantes et très, très prégnantes dans l'Empire. Oui.
Alors on continue notre petite balade, on a dit tout à l'heure qu'on n'allait pas tout dire, mais l'essentiel... Non. Et notre balade nous amène près du dieu des dieux, le père des mortels et des immortels, Jupiter.
Oui, alors là, on va rentrer dans une deuxième phase de mon propos. Jusqu'à présent, on était dans la diffusion de motifs iconographiques sur tout type de support. Là, je voudrais revenir sur quelque chose dont je parle des fois naturellement. C'est le motif générique, c'est-à-dire un motif qui prend presque la place de la figure. Donc, par exemple, là, quand on parle de Jupiter, donc on voit la figure sous forme humaine, hein, donc anthropomorphique. Mais souvent, le dieu et tous les autres dieux et de nombreux motifs, hein, on va le voir au fur et à mesure de l'émission, sont là pour évoquer la figure entière. Par exemple, pour Jupiter, on peut retrouver, par exemple, que le foudre.
Oui, et chacun saura tout de suite que la tribu désigne l'ensemble.
Exactement, ou que l'aigle.
Oui.
Voilà. On a aussi, par le biais de
ou la roue chez les gallo-romains.
La roue chez les gallo-romains, voilà. Par le biais des gallo-romains, on peut avoir que la roue. Donc, en fait, on n'a même plus besoin d'avoir l'image complète, la figure complète, pour pouvoir évoquer le dieu et sa puissance. Et pour, par exemple, dans les ex-votos, on a souvent que des attributs ou des éléments de la figure. Donc, c'est ce que j'appelle des motifs génériques. C'est des motifs qui deviennent des symboles qui sont répétés sur, là aussi, différents supports. Donc, j'ai amené quelques images de ces différents supports, de ces motifs. Donc, au Musée de la Romanité, dans la vitrine sur les lampes romaines, on pourra voir un beau médaillon de lampe avec la figure complète du Jupiter. Par contre, si on va dans la section religion, on verra un autel avec juste la roue, par exemple, ou juste le foudre. Ou le foudre et la roue ensemble, hein, parce qu'on peut avoir les deux. Et on a énormément d'autels qui n'ont pas, d'ailleurs, pratiquement la lampe est pratiquement la seule image de Jupiter complète que j'ai. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, tous les autres objets qui portent la mention
sont parcellaires, en fait.
Sont en fait que des motifs iconographiques partiels.
Et alors, cette roue, en quoi est-ce qu'elle elle évoque Jupiter, il faut le rappeler ?
Alors, en fait, elle évoque Taranis, qui est à un moment donné associé à Jupiter lorsque la religion devient gallo-romaine.
Un syncrétisme parfait.
Un syncrétisme, voilà, de la roue du Taranis, donc la roue qui descend du ciel.
Voilà, la roue qui tourne, donc ouais. L'éternité, et puis le bruit aussi.
Voilà, bruit. Qu'elle est enflammée, normalement, c'est... qui correspond aussi, d'ailleurs à l'époque, on faisait descendre une roue enflammée jusqu'à un bûcher, pour justement ce qu'on appelle les feux de Saint-Jean, nous, au jour d'aujourd'hui, ça vient de là, plus ou moins.
Donc Jupiter le tonnant, bah, il faut qu'il fasse du bruit, et voilà, la roue évoque ce bruit de tonnerre.
Voilà, et la flamme de sa foudre.
Alors ensuite, dans les images que nous avons sous les yeux et que nous devons évoquer pour que nos auditeurs les imaginent, je vois un oiseau, un aigle.
Oui, un aigle, voilà. Alors dans la section religion, on voit aussi un petit aigle en bronze qui est probablement une évocation de Jupiter.
Alors vous dites petit, ça veut dire... Parce que sur l'image...
Elle fait quelques centimètres, elle doit faire 6 centimètres,
d'accord.
Quelque chose comme ça. Elle est dans la petite vitrine sur Jupiter. Et alors, je dis probablement, puisque comme nous n'avons rien d'autre, nous n'avons pas d'indication de quoi que ce soit, on peut supposer qu'elle évoque Jupiter. Hein. Bon, là aussi, c'est, c'est nous, avec le recul, c'est peut-être un objet votif pour un larère ou pour une chapelle. Là, je n'ai aucune indication, donc je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Mais
et en même temps, c'est peut-être ces aigles qui sont associés... au pouvoir impérial aussi.
Oui, alors en figurine comme ça, oui. Je pense plutôt quand même à quelque chose de votif par rapport à un vœu pour Jupiter ou quelque chose comme ça, je pense. Par contre, effectivement, les reliefs aux aigles que l'on peut voir dans la section architecture du musée, là, les aigles font davantage référence au pouvoir impérial que à Jupiter, évidemment. Là, on est quand même plutôt dans du motif de propagande.
Oui, c'est ça.
Ces
fameux aigles dont on dit qu'Auguste se plaignait de les avoir perdus à certaines batailles qui furent des défaites.
Oui.
Et donc, dans ses rêves, il réclamait qu'on lui rende ses aigles.
Qu'on a fini par lui rendre quand même.
Oui.
Parce qu'en fait, il faut dire, voilà, je ne sais pas si tous les auditeurs le connaissent, mais l'aigle est un des motifs que l'on retrouve souvent sur les étendards et dans l'armée. Hein, c'est l'aigle romaine par excellence, c'est l'aigle impérial.
Oui, et quand Auguste demande qu'on lui rende ses aigles, c'est lui rendre les symboles de l'armée.
De l'armée qui a été massacrée par les Germains, en fait.
Ah, sacré Germain, ils ont toujours donné du fil à retordre.
Ah bah à l'époque, oui, c'était des sacrés... Il y avait les Parthes aussi qui étaient difficiles.
Alors, un Jupiter un peu bonhomme, je trouve,
oui,
se propose à mes yeux.
Oui, c'est un Jupiter Sérapis, donc un Jupiter en syncrétisme avec Sérapis, le dieu alexandrin. Et là, en fait, de loin, il semble assez proche d'une tête de Jupiter gréco-romain. Mais notre objet, en fait, il faut le regarder par-dessus. Sur le dessus de la tête, on peut voir qu'il a une espèce de cercle avec un rebord. Et en fait, c'est la base du modus, c'est-à-dire de la corbeille sacrée de Sérapis. Donc voilà, donc c'est
là, comme ça qu'on reconnaît... Là, on est dans un autre univers, une voilà. autre divinité.
Voilà, exactement. Mais c'est grâce à ce motif qu'on reconnaît là aussi qu'on peut identifier cette tête de Jupiter Sérapis. Donc encore un autre type de Jupiter.
Un peu plus humain, je trouve. Hein.
Oh oui, oh, c'est peut-être la façon dont il a été fait.
Sa coiffure aussi, un petit peu...
Oui, c'est une coiffure un peu tardive.
Ouais. Et enfin, dernier objet, avant que nous ne marquions une pause dans cette émission... Un dernier objet.
C'est un hôtel très important, très intéressant. C'est l'hôtel votif à Nemosus et Jupiter héliopolitain. Alors là, on a affaire à un, je dirais presque un triple syncrétisme. on est dans la partie plutôt orientale, hein, on est du côté d'Héliopolis et dans la cité du dieu Baalbek. Et donc, on a un Jupiter qui est. Enserré dans une gaine, à la façon du dieu de la région, en fait. Et en même temps, c'est un Jupiter. Donc là, on est dans vraiment un syncrétisme total. C'est assez intéressant, hein, c'est comme objet. C'est assez particulier, hein, c'est divinité en gaine. Donc c'est une gaine qui est divisée en plus en plusieurs registres où il y a des symboles zodiacaux, on va dire, ou en tout cas mythologico-zodiacaux. Donc c'est très complexe, je ne vais pas m'étaler ici, mais c'est intéressant. Et quand je disais un triple syncrétisme, ce n'est pas tout à fait exact. C'est que donc sur une face, on a ce dieu, donc Jupiter héliopolitain de Beyrouth. Et de l'autre côté, on a des armes gauloises qui se réfèrent à Nemosus.
Oui, donc, alors tout à l'heure, et à plusieurs reprises, nous avons employé le mot syncrétisme. Nous le définirons après la pause musicale.
Très bien.
Pour le cas où vous n'auriez pas deviné ce que c'était. À tout de suite.
À tout de suite.
Alors voici la deuxième partie de l'émission Antiquissimo consacrée à les iconiques icônes de notre musée ou d'ailleurs, toutes ces représentations qui ont une valeur singulière et universelle. Et c'est Cécile Carrier qui nous aide à décoder toutes ces œuvres que l'on peut voir soit au musée de préférence,
oui.
soit sur les catalogues diverses et variés.
Voilà, oui, mais j'essaye quand même de rester sur le musée de l'art humanité pour que nos auditeurs puissent aller voir les objets.
Voilà. Alors, on avait dit qu'on définirait le mot syncrétisme. On ne peut pas faire d'interro écrite parce que personne ne nous répondrait. Mais qu'est-ce donc le syncrétisme ?
En fait, c'est quand deux religions se rencontrent et se mêlent l'une l'autre, en fait. En gros, hein,
c'est une sorte de métissage.
C'est un métissage, voilà. Mais au niveau religieux, c'est-à-dire quand les divinités... par exemple, on parlait tout à l'heure de Jupiter. Le Jupiter qui est romain va être mêlé au Zeus qui, lui, est grec. Alors, se mêler au point de vue... de l'image, hein, de l'iconographie, mais aussi des fonctions, des attributs. Hein, mais quand on s'intéresse de plus près à ces divinités, le syncrétisme n'est pas total, dans le sens où il y a des rites qui sont proprement grecs et des rites qui sont proprement romains. Donc, chacun respectant les rites de l'autre.
Ou empruntant aux Étrusques aussi. Hein, voilà.
Oui, je parle pas des...
Et là, alors, on va être en plein dans ce propos, puisque alors, notre Jupiter, s'il a une capuche ou un capuchon, bah, forcément, il a quelque chose de gaulois. Et là, rebelote, on va avoir du syncrétisme à nouveau.
Oui.
Ici, vous allez nous parler de
Sucellus.
De Sucellus. Et qu'est-il alors, ce dieu-là ?
Alors, ce Sucellus, en fait, à l'origine, c'est Sucellos, le dieu gaulois, qui, avec la romanisation, il perd son O et il gagne un U pour devenir Sucellus. Et par contre, son iconographie, elle, pour le coup, est mixte. Gallo-romaine, on va dire, gauloise,
oui,
et romaine.
D'emblée, oui.
D'emblée, c'est-à-dire qu'il va porter des braies vraiment typiquement gauloises, une tunique aussi gauloise. Par contre,
Sera-t-il bien coiffé ? On ne le sait pas.
Et ben, il sera coiffé comme un Jupiter.
Voilà.
Enfin, comme un Zeus, puisque en fait, l'iconographie de Jupiter est... découle de celle de Zeus, donc il aura la tête de Zeus, si je puis dire, non de Zeus, et donc là on a un vrai syncrétisme, et dans l'attitude dans laquelle il est représenté, debout, il reprend l'attitude des Zeus-Jupiter, donc on a vraiment un syncrétisme dans l'image, par contre, alors un syncrétisme avec plutôt Jupiter, par contre dans sa fonction, le syncrétisme se fait plutôt avec Sylvain.
Oui.
Disons que c'est Sylvain qui est le dieu le plus proche, même si Sucellus a des fonctions plus diverses, et avec quand même un attribut qui lui est vraiment typique, c'est le maillet avec un long manche, qui est lié à sa fonction tonitruante, si je peux dire, c'est-à-dire qu'il tape du sol pour lancer soit la mort, soit la vie, donc c'est un dieu qui est quand même tonitruant,
oui.
D'où peut-être l'emprunt iconographique à Jupiter, qui est aussi un dieu tonitruant.
Oui.
Donc c'est quand même une figure qui est très...
Dans les mesures autour de la naissance à Rome, il y a des gens qui font du bruit autour de la maison, justement en rapport avec le culte de Sylvanus pour purifier cette maison, éloigner les mauvais esprits.
Donc, donc on est là vraiment dans un mix à la fois iconographique, mais aussi de fonction.
Alors si nos auditeurs sont perdus dans le mixte gallo-romain, je leur suggère d'aller voir le domaine des dieux d'Astérix et vous verrez la caricature du gallo-romain qui emprunte si aux uns, ça aux autres.
Oui. D'ailleurs, là, je suis en pleine étude dans les vêtements et je me rends compte qu'en fait, les Gaulois vont porter la toge dans certaines circonstances, vont garder leurs vêtements dans d'autres circonstances, mais les Romains vont aussi emprunter des pièces du costume gaulois qui sont plus chaudes, plus pratiques, notamment dans les manteaux, et les braies courtes vont être utilisées sous la toge quand il fait froid.
Oui.
Auguste est un des premiers à utiliser la braie courte sous sa toge, parce qu'il est particulièrement frileux, puisque c'est quelqu'un qui est quand même de
assez
santé fragile.
Oui.
Donc on sait que les Romains vont vite adopter...
Mais ils ne sont pas fous, ces
Romains.
Même
au point de vue militaire, hein, oui. les Gaulois étaient très prisés quand les Romains avaient besoin de mercenaires ou de compléments dans leur armée. Ils appréciaient notamment les Gaulois, qui étaient de très très bons guerriers.
Et alors, on souligne une des qualités majeures des Romains, c'est justement le fait qu'ils n'hésitent pas à emprunter, à reconnaître, une adaptabilité.
Et pour la religion aussi, puisque quand il y avait des dieux intéressants, ils les étudient un peu quand même.
Ils sont pas des, quand mais, on les veut les borner à des êtres intolérants, c'est absolument
non,
pas ça.
Non, on ne peut pas parler de c'est pas ce type-là de colonisation. En tout cas, c'est une colonisation politique, économique, mais pas forcément sur la vie quotidienne. On n'oblige pas les gens à...
Et de même, on fabrique avec les matériaux qui sont sur place la plupart du temps.
Oui, ils ont un sens pratique aussi.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. À la base, ce sont des paysans qui ont un sens concret.
Oui, voilà. Et donc, notre Sucellus, quand même, pour en finir avec lui, il est visible dans la section religion, où un certain nombre d'autels ont été placés dans une seule et même vitrine, donc avec une figurine en bronze qui est quand même fort connue maintenant, qui a été exposée plusieurs fois dans des expos temporaires, mais qui est aussi dans le permanent. Et ce qui est intéressant par rapport à notre discours, c'est que l'iconographie donc, de ce Sucellus, alors elle, par contre, elle est stéréotypée. Hein, pratiquement,
il y a toujours des petits animaux autour de lui.
Toujours les mêmes, c'est
le chien. Mais c'est sympathique, c'est le berger en quelque sorte.
Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est que
le coq,
ce sont les deux animaux qui sont avec lui tout le temps, la petite Ola dans la main pour les céréales, hein, c'est typique. Et par contre, ce qui est intéressant,
c'est un dieu rustique.
Et c'est le dieu des tonneliers, par exemple, aussi. Hein, c'est... Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la vitrine dans les hôtels, c'est que très peu d'hôtels le représentent en figure entière. Par contre, on a souvent, mais alors très très souvent, le maillet. Et il est plus souvent représenté uniquement par le maillet que par sa figure entière. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est quelque chose de curieux. Et sur certains hôtels, on peut avoir jusqu'à 2-3 maillets côte à côte.
Et alors, que dire de cette image que j'ai sous les yeux et qui propose avec une sorte de déhanché très gracieux.
C'est le Sucellus dans toute sa splendeur de l'imitation de l'image gréco-romaine, du coup, de la divinité
Mature. Qu'il avait un maillet dans la main qu'il
il
a perdu.
Et il a perdu son bras aussi droit qui tenait là-haut.
Et celui-là, on le voit au musée de la
Romanité. Oui, il est dans la vitrine avec les hôtels. Donc,
Mais il est plus petit que je ne le vois ici, j'imagine.
Il fait 25 ou 30 cm, je ne sais plus. Est-ce que je l'ai noté quelque part?
Et ça, c'est un bronze.
Elle fait 22 cm, c'est ça. C'est un beau bronze avec. Oui. Alors, pour ceux qui ont les bons yeux, il a les yeux en argent.
Ah.
Oui. Et puis, comme il a été nettoyé, on les voit bien maintenant. Enfin, on les voit bien. C'est des restes, hein, malheureusement. Il a été quand même abîmé avec le temps, mais bon.
Alors, nous n'aurons qu'à peine le temps d'évoquer la figure de Mercure, on y reviendra peut-être.
Oui, mais bon...
Il nous reste une demi-minute.
Oui, en effet. Le Mercure, les gens le connaissent bien, et lui aussi, il est souvent représenté que par des motifs génériques, comme la tortue, par exemple, ou son caducée qu'il tient. Alors, on en a plusieurs exemplaires dans l'espace religion du musée, que les gens pourront voir, notamment...
Cette tortue est magnifique.
La petite tortue magnifique, oui, elle est très mignonne, oui.
Une tête, allez au musée.
Voilà.
Et on vous dit grand merci, Cécile.
Avec plaisir.
À très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.